Bonjour tout le monde, Marjorie Théodore au micro. Merci de nous rejoindre sur Canal M pour l'émission Vivement les femmes. Aujourd'hui, je reçois une femme d'inspiration. Femme d'affaires accomplie à la tête d'une entreprise qui porte son nom. Elle est une formidable passeuse, généreuse de son temps, de son savoir et de ses contacts. Elle fonde, il y a 4 ans, Enkel Media, une plateforme riche d'informations à l'intention des entrepreneurs et entrepreneuses. Mon invitée est une femme qui se trouve dans le top 100 des femmes les plus influentes du Canada. Depuis plus de 30 ans, elle est chef de file dans le domaine des affaires et de l'entrepreneuriat au Canada. Bonjour Danielle Enkel.
Bonjour Marjorie.
Bienvenue à Vivement les femmes. Pour moi, c'est un plaisir de vous recevoir.
Merci.
Alors, vous êtes fondatrice et présidente directrice générale des entreprises Danielle Enkel. Vous mettez sur le marché des technologies avant-gardistes et non invasives au profit des centres de beauté et de santé. Vous développez des franchises et offrez des services express médicaux esthétiques. Il y a 4 ans, vous avez lancé une plateforme télévisuelle, Enkel Media. Durant 5 saisons, la célèbre émission, hein, ça fait un petit bout, mais dans l'œil du dragon, vous a recruté pour être l'une de ses mentors. Vous offrez près d'une 50aine de conférences par année. Et en plus, vous trouvez le temps d'écrire. Vous avez publié 3 livres autobiographiques, chacun best-seller au Québec, totalisant près de 100 000 copies vendues. Alors, en 2013, c'était « Quand l'intuition trace la route », les éditions de la presse, qu'on peut aussi se procurer en livre audio produit par Vues et Voix. En 2015, « Au cœur de mes valeurs », les éditions de la presse. 2019, c'est « Différence qui nous rassemble », des éditions Plomb. Alors, Danielle, dans votre livre « Quand l'intuition trace la route », que j'ai eu le plaisir vraiment de lire, vous avez évoqué votre enfance et vous nous avez expliqué votre nom de famille, Enkel. Alors, de mère juive, père allemand, s'entremêlent le Maroc, l'Algérie, les religions catholiques, musulmanes, juives. Comment avez-vous concilié toutes ces cultures en vous?
Probablement ce qu'on appelle communément la résilience, mais surtout la capacité d'avoir la chance d'avoir eu une maman qui a elle seule, elle-même, composée de plusieurs nationalités et religions. Et elle ne m'a jamais appris à focaliser sur les différences. Mm-hmm. Elle m'a surtout appris à vivre le moment présent. Et elle m'a appris aussi à savoir qu'un être humain devait être jugé plutôt par ses valeurs, ses actions, ses paroles, ses résultats, que par ce qu'il représentait en perception. Donc, c'est comme ça que j'ai grandi. Donc, je ne me voyais pas différente. Mm-hmm. J'ai appris à être comme je suis et à accepter comme je suis. Et à accepter les autres aussi, tels qu'ils étaient. Donc, pour moi, il n'y avait pas de différence entre une personne de couleur, une personne petite, une personne grande, une personne venue d'un autre pays ou d'une autre religion. Pour moi, c'était un être humain comme un autre.
Oui. D'ailleurs, vous avez parlé de votre mère. Pour avoir lu le livre, je sais que vous en parlez de façon tellement affectueuse. Vous aviez une belle relation avec votre mère. Concrètement, qu'est-ce que votre mère vous a laissé en héritage qui vous permet d'être la personne que vous êtes aujourd'hui?
Croire en soi. C'est le plus bel héritage qu'elle m'a laissé. En fin de compte, elle m'a laissé plusieurs héritages, dont un en particulier où elle me disait d'être toujours très curieuse, de ne jamais m'asseoir sur mes connaissances actuelles et de toujours vouloir comprendre les choses à travers l'écriture, à travers la lecture, à travers des questions posées aux bonnes personnes. D'essayer d'aller jusqu'au bout des choses pour les décortiquer, puis de me faire ma propre opinion afin de pouvoir prendre les meilleures décisions. Donc, c'est le plus grand legs qu'elle m'a fait, c'est de ne jamais me satisfaire du juste ce qui est, mais de toujours questionner pour évoluer.
Et vous avez 4 enfants.
Oui.
Donc, vous laissez aussi en héritage ça à vos enfants.
Absolument. À mes enfants et à mes petits-enfants, j'en ai 7.
Ah oui!
Donc, oui, je dirais même que je me suis fait un devoir d'écrire mes 3 livres, d'abord et avant tout pour mes enfants et mes petits-enfants.
Ouais.
Parce que c'est ce qui reste, c'est ce qui va rester. Je trouve qu'il est important qu'ils et qu'elles comprennent ce qui m'a animée tout au long de ma vie, les défis auxquels j'ai fait face, les réussites que j'ai eues, les échecs, les rencontres, la vie, quoi.
Ouais.
Je voulais qu'ils la comprennent à travers mes yeux. Voilà, donc c'était important pour moi d'écrire ces livres pour eux, pour elles, afin qu'ils comprennent que la vie, ben, c'est autre chose que juste ce qu'aujourd'hui on découvre sur les réseaux sociaux.
Voilà, oui.
Entre autres.
C'est entre autres. C'est beaucoup plus profond.
Oui.
Dans le livre, justement, « Quand l'intuition trace la route », il y a quelque chose qui m'a interpellée. Lorsque vous avez eu votre premier emploi dans une compagnie américaine, vous avez dit quelque chose, quel que soit, parce que bon, vous aviez vécu cette déception, et quel que soit le poste occupé, il y aura toujours un revers. Il faut juste le savoir. Les chutes nous paraissent moins brutales. Qu'entendez-vous par là?
Ne pas... vous savez, on a tendance à toujours amplifier nos illusions.
Oui.
Hein, donc, on arrive quelque part et déjà, c'est des superlatifs. C'est extraordinaire, ça va être très bien. Et quand arrive un événement qui est moins agréable,
oui.
Là, la chute, elle est de haut.
Oui.
Et elle fait très mal.
Mm-hmm.
Donc, j'ai été là aussi. Je me suis illusionnée moi-même. Hein. Personne n'a eu besoin de le faire pour moi. Je l'ai fait grandement. Et c'est là où j'ai appris que dans la vie, il faut vivre jour à jour.
Mm-hmm.
Il faut faire et il faut constater. Mais il ne faut pas essayer de monter en épingle quelque chose qui peut-être ne l'est pas. C'est-à-dire que, vous savez, le mental est extraordinaire pour ça. On se bâtit notre propre monde, on l'imagine.
Oui.
Donc, l'imaginaire est très actif, surtout quand on est jeune.
Oui.
On est très imaginatif. Et c'est là où, quelquefois, on est déçu. Mais en réalité, la déception ne vient pas de l'extérieur.
Mm-hmm.
Elle vient de nous.
Oui.
Elle vient de la façon dont on a imaginé la chose, ou le poste,
mm-hmm.
ou l'amitié, ou l'amour. C'est nous qui l'avons forgé, c'est
oui.
pas l'autre.
Oui.
Donc, ça m'amène aussi à parler de la responsabilité que nous avons à prendre nos responsabilités. Hein, c'est pour ça que ma façon un peu d'aborder le sujet, c'était ça.
Mm-hmm.
C'est la chute, il y en aura toujours.
Oui.
Mais elle fera moins mal si tu acceptes ta part de responsabilité.
Mm-hmm.
Il y en a toujours une.
Oui.
Ça se peut que j'ai choisi de faire quelque chose qui n'était peut-être pas à la hauteur de mes attentes. C'est peut-être que j'ai choisi quelque chose ou j'ai accepté quelque chose et j'ai découvert que ben, les valeurs ne sont pas les mêmes. Donc, ce n'est pas la faute des autres.
Mm-hmm.
C'est aussi moi. Donc, quand ça arrive, bien, tout ce qu'il y a à faire, c'est à ajuster, à se réadapter et à ne pas pointer du doigt.
Mm-hmm.
C'est juste un apprentissage comme un autre,
ouais.
Une découverte comme une autre,
mm-hmm.
Une volonté de dire, bah, écoute, oui, je me suis trompée, et alors
mm-hmm. ouais.
Donc la chute est moins douloureuse.
Douloureuse.
Oui.
Puis est-ce que ça voudrait dire aussi, comme vous créez, vous allez vers toujours des projets, de nouveaux
oui.
projets, est-ce que ça veut dire aussi de se mettre en tête qu'on peut échouer au départ ou c'est simplement de garder notre motivation et puis bon, si la déception vient, on l'accepte?
Ben, vous savez, si on parle par exemple d'entrepreneuriat,
oui.
déjà au départ, être entrepreneur, c'est une bibite à part,
mm-hmm.
vraiment. C'est une frame of mind, je m'excuse de l'anglicisme, mais c'est une façon de penser qui est un peu hors norme.
Oui.
Être entrepreneur, c'est ce que ça dit, c'est avoir le courage de foncer alors qu'on ne connaît pas demain. Il n'y a aucune sécurité. Je n'ai pas mon chèque de paye qui rentre parce que ça rentre, parce que je fais un travail qui est A à Z. Hein. Mais non, je dois tout créer au fur et à mesure avec tous les risques que ça peut comprendre et toutes les responsabilités que ça comprend. Donc, un entrepreneur, c'est qu'il accepte déjà les risques face au choix qu'il a fait, par exemple. C'est vraiment d'accepter les risques, mais de ne pas partir perdant, jamais, pas du tout. Pourquoi à ce moment-là, la vie n'aurait pas de sens? Je me dis que la vie a du sens quand on essaye ce qu'on a envie d'essayer, au risque que ça ne fonctionne pas comme on l'a pensé. Ouais. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas fonctionné. Ça veut dire que nous, on a mis peut-être des attentes qui n'étaient pas... qui n'étaient pas justes ou qui n'étaient pas...
réaliste, non?
Réaliste, ouais. Merci, tout à fait. Mm-hmm. Alors, c'est ça qu'il faut se questionner surtout. C'est que tout est un apprentissage. Tout est expérience.
Ah ouais.
Tout est une opportunité. Rien n'est mauvais. Rien. Même honnêtement, je crois que la pire des expériences que j'ai eues, pour moi, était une expérience, point. Et qui m'a permis d'ailleurs de ne pas refaire.
Oui. C'est ça, d'apprendre de ce qu'on, des oui. expériences qu'on a vécues.
Absolument. Oui. Donc, oui, on peut les appeler des échecs, parce que c'est sûr et certain que les attentes ou les résultats ne sont pas au rendez-vous. Mais est-ce que échec veut dire que moi, je suis un échec? Oui. Pas du tout. Oui, c'est le projet qui est peut-être à échouer. Puis, la beauté, c'est de se poser les bonnes questions, d'oser poser les bonnes questions, peu importe, un échec en amitié, encore une fois, un échec en amour, un échec en affaires, un échec au travail, c'est de se poser, d'oser se poser les bonnes questions.
Ouais, ouais. Alors, restez avec nous, Daniel, c'est déjà une petite pause et on va revenir après la pause.
Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux,
comme l'oiseau bleu survolant la terre, vois comme le monde est beau.
Beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson naissante des vagues, abandonnée au sable blanc. Blanc l'innocent, le sang du poète qui en chante.
Yeah.
L'oiseau et l'enfant de Kids United. Alors, je voyais Danielle Henkel avec qui nous revenons. Alors, femme d'inspiration, fondatrice et PDG des entreprises Henkel et de Henkel Media. Alors, elle était en train de danser sur la musique qui vous ressemble.
Oui, j'adore cette chanson.
C'est un choix de Danielle. Alors, Danielle, vous êtes une femme de défi. Quelle est la notion du défi pour vous? Parce que vous en avez eu tellement, et puis on peut le voir à travers le livre et tout, donc, et sûrement vous avez juste relaté quelques défis. Quelle est la notion du défi pour vous?
Le dépassement de soi.
Dépassement de soi.
Oui. La non-conformité, le refus de stagner. La vie est un changement perpétuel, un mouvement perpétuel, donc... Je trouve que les défis, ben, ça vient avec le changement, bien sûr. Il n'y a rien de statique, il n'y a rien d'acquis. Donc, pour moi, le défi, ben, c'est la vie. Donc, pourquoi pas?
Oui, oui.
Pourquoi pas? Je veux dire, comment puis-je faire partie d'un monde où on doit évoluer?
Oui.
Si je dois stagner. Donc, le défi, pas que j'en veuille de trop, mais je sais que ces défis-là sont nécessaires pour... Me découvrir, pour découvrir des nouvelles aptitudes, des nouvelles forces, ou même, je dirais, des faiblesses. Ah ben oui, l'un va pas sans l'autre, le jour, la nuit.
Tout à fait.
Ah bien sûr, le blanc, le noir.
Oui.
Et ça fait partie de ça. Donc oui, les défis pour moi, c'est ça. C'est la découverte de mes forces, de mes capacités, de mes refus aussi de me conformer, quelquefois. Je dis souvent que je refuse de rentrer dans un moule parce que par crainte de ressembler à une tarte. Donc non, je rentre pas dans les moules.
Ah non, vraiment.
J'aime les manger, les tartes, mais je veux pas y ressembler.
Voilà. Danielle, vous êtes une femme de défi, mais une femme aussi de succès. Hein? Bon, par votre livre, on apprend aussi que ce succès n'est pas venu sans difficulté. Mais j'aimerais vous poser la question, de nos jours, est-ce que vous pensez que les femmes ont encore tellement peur de ce succès comme entrepreneur ou comme dans tout autre métier?
Peur, non. Je pense pas que les femmes aient peur du succès. Je pense que les femmes sont prudentes. Plus prudente que d'avoir juste à foncer dans quelque chose, les yeux fermés, les bras ouverts, sans avoir un minimum d'analyse, de pause. Donc, les femmes sont ambitieuses tout autant que les hommes. Mais je crois que l'ambition chez la femme doit être définie différemment. Parce que l'ambition est là. Mais elle est aussi attachée à certaines responsabilités que les femmes ont totalement depuis la nuit des temps, qui font partie, qui font partie de leur génétique. Hein, donc, c'est naturel pour une femme de passer, de faire passer sa famille, ses enfants en priorité, peu importe le prix à sacrifier ou ce qu'il y a à sacrifier. Donc, ça fait partie de nous. Maintenant, comment on va sacrifier? Qu'est-ce qu'on sacrifie? Comment est-ce qu'on détermine le succès? Ou jusqu'où on veut aller dans le succès? C'est très personnel. C'est être ambitieux ne veut pas dire être toujours au top de la pyramide en haut. Pas du tout. Avoir du succès, c'est avoir du succès basé sur ce que nous, on définit être un succès. Est-ce que d'avoir un équilibre dans ma famille, c'est un succès? Absolument. Est-ce que de choisir de faire une profession ou d'être entrepreneur pour moi et d'être heureux, c'est un succès? Absolument. Est-ce que d'être capable, d'être fier de ce que je fais au quotidien et de voir ma contribution à la société? Mais absolument, c'est un succès. Donc vous voyez... le succès doit être et devrait être défini de multiples façons. Il n'y a pas une façon d'être... Maintenant, on n'a pas à se comparer non plus.
Voilà.
La problématique, c'est la comparable ou la comparaison que l'on pourrait faire. Parce que Je répète encore une fois, la société aujourd'hui, c'est ça. Hein. On a védétarisé,
oui.
Par exemple, l'entrepreneuriat.
Mm-hmm.
Je veux dire, tu sais, on parle tout le temps des gens qui ont énormément de succès. On revient encore sur les grands, les Tesla de ce monde, mm-hmm. Tous ceux qui ont inventé ben, Monsieur Steve Jobs, Monsieur Amazon, etc. Mais est-ce vraiment ça pour tous, mm-hmm. le succès? Pas vraiment.
Oui, je trouve vraiment. Ça vraiment important ce que vous dites parce que justement, j'ai eu une émission où on parlait du choix de rester à la maison ou d'aller travailler.
Mm-hmm.
Et ce que vous dites fait aussi en sorte que, voilà, le succès, ça peut, c'est selon le choix de
absolument.
Chaque femme.
Absolument.
Et ce qui a été, lorsqu'on nous montre les vedettes, etc., les
PDG, les CEO,
c'est pas ça le succès.
Mais c'est pas ça du tout,
voilà.
Même, je dirais,
ouais.
C'est pas ça du tout. Montrez-moi un entrepreneur qui ne s'est pas cassé, ou une entrepreneur,
oui.
qui s'est pas cassé la gueule à moult fois, qui s'est pas retrouvé, comme je dis, quasiment le dos par terre, plus rien,
mm-hmm.
Avoir quasiment tout perdu aussi. Je veux dire, je regrette, mais de ce qu'on voit des fois, le haut de l'iceberg, on voit pas l'envers de la médaille, moins on s'imagine que l'envers de la médaille n'est pas aussi catastrophique quelquefois. Donc, c'est la persévérance, c'est la résilience, c'est la volonté, c'est le travail. C'est tout ça que ça prend pour monter peu importe quoi.
Oui.
Donc oui, les femmes doivent définir par elles-mêmes, pour elles-mêmes, je dirais, pas pour les autres, pour elles. On ne vit qu'une fois, Marjorie. On a une vie. Mon Dieu, que quelquefois, on la met à rude épreuve pour plaire. Pour plaire à qui? Je veux dire, c'est ta vie à toi.
Oui.
Donc définis-la. Puis sois-en fière, fais ce que tu aimes faire parce que tu vas être heureuse,
mmh.
Ta famille va être heureuse, ton employeur va être heureux, ton entreprise va fleurir. Sois bien avec tes décisions.
Oui.
C'est
oui.
ta vie,
oui.
c'est ton succès, c'est tes décisions.
Tout à fait.
Ben oui.
Tout à fait. Cela m'amène à parler, ben, parce que c'est sûr que vous en parlez dans votre livre, quand... l'intuition trace la route. Vous avez subi aussi les critiques
oui.
acerbes,
oui.
la jalousie de l'autre.
Mais oui.
Comment qu'on peut arriver à passer à travers?
C'est pas simple, c'est pas facile, ça fait mal,
mm-hmm.
Parce que c'est sa propre dignité, c'est sa remise en question. Et puis on se questionne énormément. Pourquoi? Parce que tout ce que je pense qu'un être humain veut, c'est être ami avec, c'est plaire aussi, c'est avoir une reconnaissance. Donc, c'est sûr qu'il y a des incompréhensions autour de tout cela, mais c'est le temps seulement et la sagesse qui nous apprennent à passer au travers de cela et à faire carrément fi de cela. C'est de se dire, parfait, tu ne peux pas et tu ne pourras jamais changer la perception de quelqu'un envers toi. Tout ce que tu peux faire, c'est de continuer de faire les choses pour que toi, tu sois fier de ce que tu fais.
Mmh.
En sachant qu'à chaque fois que tu poses un geste, eh bien, tu as un impact positif. Le reste, tu n'as pas de contrôle.
Mmh.
Donc, laisse aller.
On laisse.
Et c'est pas simple. C'est pas simple. C'est un travail quotidien, Marjorie.
Mmh.
Au quotidien, je dois me rappeler que c'est pas grave, ça ne m'appartient pas.
Ouais.
Ça leur appartient. Ils ont le droit
Tout
d'avoir
à fait.
Leur opinion.
Mmh.
Absolument, j'ai le droit d'avoir la mienne.
Mmh. Tout à fait.
Ah ben oui.
Alors, ça m'amène à vous demander, dans tout ça, dans tout votre parcours, quel a été votre plus grand sacrifice?
Mon plus grand sacrifice. Aïe, aïe, aïe. Mon plus grand sacrifice a été... d'avoir, oui, c'est un choix aussi, mais un choix au début inconscient, c'est d'avoir été maman très très jeune. Ça a été le sacrifice de ma vie. Je ne sais pas ce qu'elle aurait été, parce qu'à 19 ans, j'étais quand même enceinte.
Mm-hmm.
À 26 ans, j'avais 4 enfants. Donc, je pense que le plus grand sacrifice a été de ne pas avoir vécu, en fin de compte, Je n'ai pas joué à la poupée, vraiment. Ouais. Je n'ai pas eu le temps de m'amuser comme le faisaient des adolescentes de mon âge. Mm-hmm. J'avais déjà des responsabilités, autant auprès de ma maman qu'auprès de mes enfants. Donc, je pense que ça a été un sacré sacrifice de se dire « Waouh, je n'ai pas pu choisir cette partie-là.
Ouais. »
Non.
Ouais. Non,
je ne l'ai pas choisie. Elle est arrivée, puis je dois vous avouer qu'à 66 ans aujourd'hui, c'est un énorme waouh et un énorme merci à la vie. Parce que je n'ai aucune idée de ce qu'aurait pu être la vie que je me serais choisie pour moi.
Oui. Ah oui.
Mais je vous avoue que j'ai une famille. Elle est tout pour moi.
Oui.
C'est ma plus grande richesse, c'est ma plus grande fierté. Mm-hmm. Je les regarde aller tous les jours, eux-mêmes avec leurs propres enfants, et je me dis, j'ai accompli ce que j'avais à accomplir de plus grand.
Ouais.
C'est vraiment ça. Le reste, ça va, ça vient, l'argent, ça se fait, ça se perd, mm-hmm. les entreprises, ça se bâtit, ça tombe, et alors ? Mais c'est ça, c'est la vie, hein ? Mais ça c'est waouh, ouais, moi j'en suis très fière.
Et c'est votre équilibre aussi.
Ah, totalement. Ah, totalement. Je suis en paix avec mes enfants.
Oui, ça sera aussi.
C'est mon havre de paix. Mmh. Même mon ex-conjoint, le papa de mes enfants, je suis en havre de paix avec lui. Mmh. Je suis heureuse avec mon conjoint actuel. Je n'en demande pas tant, vous savez. Je sais me contenter de l'essentiel.
Oui.
Je sais reconnaître l'essentiel. Je l'ai appris à la dure, mais la gratitude, waouh, c'est, ouais. T'es en paix, t'es vraiment en paix. Donc oui, j'ai des pics parce que, mon Dieu, je suis loin d'être parfaite. Ouais. Oh my God, non. Mais je vous avoue que quand ces pics arrivent, je sais leur parler aussi.
Oui, on ressent cette paix, je peux vous dire.
Merci.
Alors, nous revenons encore dans quelques instants. Vous pouvez écouter nos émissions sur le site de Canal M, sur visezvoix.com et en balado.
Écoutez Vivement les femmes avec Marjorie Théodore.
Nous poursuivons notre entretien avec Danielle Henkel, présidente de Henkel Media. Elle se situe dans le top 100 des femmes les plus influentes du Canada et également l'auteur de 3 ouvrages. Danielle, nous avons parlé un peu de tout ce que vous avez vécu. Maintenant, j'aimerais que vous me dites où vous en êtes rendue aujourd'hui. Avec votre entreprise, quel est votre projet actuellement?
Je commence par où?
Mais je sais qu'il y a la passation, hein,
mais
aussi.
Mais oui.
Alors, j'aimerais ça vous entendre
non,
là-dessus.
Mais je vous fais sourire surtout parce que c'est ça.
Il y en a tellement.
La femme aux mille vies.
Oui.
Ah là là. Mais écoutez, il y a pratiquement 3 ans, j'ai officialisé dernièrement la passation de les entreprises Danielle Henkel à 2 de mes filles, donc Linda qui est l'aînée et la dernière qui s'appelle Amel. Mm-hmm. Donc elles sont récipiendaires de cette entreprise auquel elles ont fait partie, d'ailleurs une belle partie de leur vie. Elles l'ont mérité grandement. Pour ne pas avoir, moi, ces émotions attachées justement au départ de la soi-disant fondatrice, vous savez, parce que c'est un deuil, qu'on le veuille ou non.
Oui.
Il y a des années, c'est quand même 26 ans de travail. J'ai décidé, il y a 3 ans exactement, de partir un média qui s'appelle aujourd'hui Henkel Media, mais un média qui est dédié aux dirigeantes, aux dirigeants et aux entrepreneurs des PME du Québec. Mais c'est un média digital. Donc, je souhaitais continuer un peu ce que j'ai découvert à travers mes différents investissements, différentes discussions, puisque je coach aussi, j'accompagne des entrepreneurs, j'accompagne aussi stratégiquement certaines organisations. Mais ce que j'ai découvert, c'est toute cette pépite, ce tissu entrepreneurial au Québec est absolument fabuleux, mais qu'on connaît peu ou qu'on connaît mal, particulièrement les régions. Et donc, je me suis attelée à ceux qui ont trop longtemps été sous-représentés.
Okay.
Et Dieu seul sait qu'il y en a. Donc, on parle en globalité de la diversité, mais ça veut dire quoi, la diversité? Donc, la diversité, c'est tous ceux, justement, qui ont été marginalisés pour une raison ou pour une autre. Les femmes, entre autres, on commence par ça. Ensuite, bien sûr, les LGBTQ+, on parle des autochtones, on parle des racisés, on parle des personnes d'origine différente ou de sexe différent, de genre différent. Donc, tout cela, pour moi, fait partie de notre vie, de notre société. Ce sont des êtres humains, comme d'autres, qui contribuent à l'évolution de notre société. Ils en font partie intégrante. Mais est-ce qu'on s'est assez penché sur leurs rêves, leurs besoins, leurs contributions? D'ailleurs, depuis des années, le Québec a été, le Canada, le Québec, le monde a été construit par la multiplicité des genres, des religions, des cultures. C'est fabuleux. Regardez, aujourd'hui, on se promène à Montréal, puis on mange de tout, de toutes les cultures. C'est magistral. Ça vient d'où? Ben, ça vient justement de toutes ces personnes qui ont partagé leur savoir. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est de mettre le projecteur sur ces entreprises-là, quelles qu'elles soient, peu importe leur taille, peu importe la région dans laquelle elles sont, mais à condition que ces entreprises aient un impact positif sur l'environnement, sur la société. Donc, je ne mets pas de l'avant des entreprises qui sont déjà connues. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'est-ce que tu as fait, pourquoi tu le fais et quelle est la contribution sociétale. Alors, on appellera ça du socio-économique, absolument. Savoir faire de l'argent pour partager aussi. Donc, il faut faire de l'argent. Puis ça, c'est un tabou que je n'ai jamais compris parce que l'argent, bah, c'est un outil comme un autre. C'est un échange pour être capable de donner, il faut faire. Je veux dire, c'est souvent on me dit le gouvernement nous a donné. Ça me fait sourire parce que le gouvernement, ben, c'est grâce à tous ceux qui travaillent.
Oui.
Ce sont nos impôts, nos taxes, nos crédits, etc. Je veux dire, sinon, s'il n'y avait pas d'entreprise, s'il n'y avait pas d'entrepreneurs, ben, les salaires ne se paieraient pas, les emplois ne se créeraient pas, les routes ne se bâtiraient pas, les hôpitaux non plus. Donc, c'est fou comment tout est interrelié. Donc, moi, je ne parle pas du capitalisme pur et dur. Je parle de ce que l'on est, ce que j'ai découvert chez nous au Québec. Donc, savoir collaborer, savoir partager, savoir devenir autosuffisant.
Ouais.
Et pour ça, ben, il faut reconnaître ceux qui travaillent fort pour ça.
Ouais.
Ceux qui participent à la richesse globale. Je trouve ça épouvantable de parler autrement de ces gens-là. Il faut les respecter. Donc, c'est à ça que sert le média, c'est de raconter l'histoire de ces personnes extraordinaires et bien entendu leur contribution.
Oui. Donc, maintenant, vous avez fait la passation de l'entreprise, alors des entreprises Henkel à vos deux filles, Linda et Amel.
Oui.
Donc, vous allez rester, vous êtes déjà une personne accessible, mais je veux dire, plus accessible, vous allez communiquer, vous allez former aussi, vous êtes coach.
Oui, je suis coach, je suis stratège aussi, je suis coach en stratégie pour des entrepreneurs, mais aussi pour des dirigeantes et des dirigeants. J'ai récupéré la troisième de mes filles qui s'appelle Noël et qui est aussi ma partenaire dans le média, mais qui est aussi la vice-présidente des opérations. Donc, mais nous avons bien sûr une magnifique équipe. Alors oui, aujourd'hui, mon temps, mes projets vont tourner autour de tout ce qui touche aux communications, à la mise en valeur de notre écosystème entrepreneurial, absolument. Et je suis heureuse de dire qu'on a dépassé même les frontières du Canada francophone et francophile. Nous sommes aujourd'hui écoutés, on outille aussi, on est très recherchés, mais en France, en Suisse, en Belgique, en Afrique du Nord. Donc, on a de plus en plus d'adeptes qui aiment le média parce que c'est un média qui est positif. C'est un média qui est éducatif. C'est un média qui tient à outiller, mais surtout à rassembler et à faire reconnaître des entreprises qu'on n'aurait absolument pas connues d'autre façon qu'à travers ce média-là. Voilà.
Donc, alors, c'est une plateforme.
Oui.
Pouvez-vous nous expliquer? C'est une plateforme où on retrouve des vidéos, des formations.
Oui, c'est des formations, des vidéos, des podcasts, des articles. Donc, il y a plus de 700 contenus aujourd'hui à la disposition des gens. Donc, nous innovons année après année. C'est quand même une start-up. Hein, elle a 3 ans.
Oui.
Au départ, je l'ai appelée danielhinkel.tv.
Oui.
Mais j'ai extrait la femme du média pour bien laisser la place et la pérennité au média. Il ne m'appartient pas. Il faut que ça me perdure. Donc, j'ai enlevé la femme de là, puis j'ai créé mon propre site.
Oui.
Donc, si quelqu'un, par exemple, souhaite Madame Henkel pour une conférence ou Madame Henkel comme coach ou comme conseillère stratégique, ils vont venir dans danielhinkel.com.
Oui.
Ça, c'est l'univers de la femme. Henkel Media, c'est l'univers qui doit outiller, propulser et informer les dirigeants, les dirigeantes et la communauté d'affaires.
OK. Alors, j'entends bien que c'est la passation de la femme d'affaires donc qui a au moins vous aviez eu la chance d'avoir vos filles qui ont pu prendre la relève mais ça se fait pas sans déchirement on a parlé de ça. Expliquez-nous un peu comment que ça se passe, parce que souvent, ce qu'on voit aussi beaucoup dans les entreprises ou entreprises familiales, parfois les enfants ne veulent pas, mais là, vous avez eu la chance que vos enfants ont voulu.
Oui.
Donc, expliquez-moi un peu comment se fait ce détachement, mais cette réflexion ça, qui vous a pris 3 ans.
Oh non, cette
plus
réflexion
que ça?
M'a pris. Oh, oui, oui, c'est une réflexion qui a commencé il y a au moins 8 ans.
OK, d'accord.
Sinon plus, ah ben oui, c'est tout un accompagnement.
D'accord.
Ça prend aussi des professionnels, il ne faut pas le faire soi-même. Non, non, il y a le côté technicalité, technique, donc tout ce qui est avocat, fiscalité, accompagnement de passation, définition des compétences aussi des repreneurs. Donc, il fallait savoir qui allait reprendre pour les bonnes raisons, pas parce qu'elle est l'aînée, mais parce qu'elle a la compétence de porter l'entreprise ailleurs ou de continuer à sa pérennité. Donc, il y a tout un cheminement qui a pris des années et des années. Donc, non, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est justement d'en discuter beaucoup avec les enfants pour m'assurer d'abord que c'était aussi convenable pour eux, pour elles. Mais surtout, moi, il fallait que je me prépare à ce détachement parce que je suis une femme excessivement active.
Oui,
donc, pour moi, ne plus rien faire et puis me dire que je vais prendre ma retraite et que je vais aller jouer au golf, non, c'est pas moi. je pense que toute ma vie sera et restera vouée à me dépasser moi-même. Mais avec et pour les autres. Avec et pour les autres. Je ne vois pas la vie autrement. Je vois la vie vraiment en symbiose avec les autres. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Comment peut-on améliorer notre société? Comment peut-on mieux éduquer? Comment peut-on mieux enseigner? Comment? Et donc, de le faire, c'est tout. Mais ça, c'est très personnel. Pour moi, ma vie, ce sera toujours un partage dans le respect de qui je suis. Souvent, quand on me dit, Madame Henkel, mon Dieu, vous donnez des conférences et vous êtes une des conférencières recherchées, mais probablement les mieux payées. Alors, je leur dis absolument. Et je n'ai aucune gêne parce que je dois redonner aussi. Et pour le faire, il faut que je me respecte. Il faut aussi qu'on sache que ce que j'ai à offrir est peut-être différent de ce que vous savez. Donc, c'est de tester aussi les gens dans leurs compétences, mais de ne pas avoir honte de se valoriser.
Tout à fait.
Absolument. Et ça, c'est un des problèmes des femmes, d'ailleurs.
Oui, en effet. Alors, sur ces mots, on va encore s'arrêter pour une petite chanson et on revient.
Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, on mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin pauvres et malandrins de manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les monts de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Alors sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains amis.
On n'a que l'amour, une chanson qui traverse les époques. Alors, je suis de retour avec cette femme d'inspiration, la présidente de Henkel Media, Danielle Henkel, une belle force vive. Alors, Danielle, j'aimerais qu'on revienne un petit peu, parce qu'on s'était laissé avant la pause sur Henkel Media, mais surtout sur votre rôle de coach. Donc, j'aimerais ça que vous en dites plus et puis comment on peut vous rejoindre, etc.
Écoutez, le rôle de coach, c'est ce que j'ai vécu moi-même et c'est ce que je constate lorsqu'on me propose d'accompagner des fois des dirigeants ou des entrepreneurs. C'est que les défis sont, je dirais, quasiment les mêmes. C'est juste que, dépendamment de la personnalité de l'individu, on ne voit pas, on appelle ça le gestalt, on ne verra jamais le défi de la même façon ou les solutions de la même façon. Donc, je trouve que d'aller voir quelqu'un pour justement discuter de la difficulté ou de la complexité peut-être d'une situation, c'est absolument nécessaire parce que... Et la personne peut ne pas être du tout dans le domaine dans lequel vous êtes. D'ailleurs, il ne faudrait même pas que ça le soit. Parce qu'en réalité, ce n'est pas le domaine qui est intéressant pour la personne qui va accompagner. Ce qui est intéressant, c'est, en fin de compte, la dirigeante ou l'entrepreneur ou l'individu qui est devant et sa façon de se décrire et sa façon de voir le soi-disant défi.
Oui.
Et de constater aussi l'approche de la solution ou des solutions qu'il ou elle a trouvées déjà. Et c'est là où la richesse de l'intelligence collective entre en ligne de compte. Donc, c'est ce que je fais. Ce que je fais, c'est que je mets à contribution mon expérience de vie, mes expertises ou mes compétences au long de tous ces cheminements qui ont été multiples et l'écoute. Parce que je pense que quand on veut écouter quand on prend la peine d'écouter, on découvre des fois que ce qui semblait être le défi ou les défis ne le sont pas en réalité. Ce sont des défis qui sont perçus comme étant des défis par la personne qui vient. Donc, ça, c'est mon rôle de coach. Il y a aussi, bien sûr, la conseillère stratégique. Alors, un autre exemple, on est dans une situation où on doit prendre des décisions. On doit savoir, par exemple, est-ce que je prends un partenaire? Est-ce que je vais chercher un investisseur? Est-ce que je vends mon entreprise? Est-ce que je passe mon entreprise? À qui je le passe? Et comment, si je n'ai pas de relève? Donc, ça, c'est des discussions que je peux avoir basées sur, bien entendu, les besoins de la personne qui vient me voir. Parce que ce n'est pas mes besoins à moi qui sont prioritaires, pas du tout. Ce n'est pas ma façon à moi de décider que c'est ça qu'il faut faire. C'est quels sont les besoins ou la volonté de l'autre et de décortiquer ensemble quelle serait peut-être la meilleure approche. Et ce que je fais, je crois, de bien, c'est que je mets toujours la personne aussi en position de comprendre les autres. C'est-à-dire ceux ou celles avec qui elle ou ils veulent ou partir en affaires ou partenariat ou investissement. Donc, comprendre aussi l'approche de l'autre. Parce que des fois, on a encore nos biais qui sont conscients et nos biais inconscients. Donc, mon rôle, c'est de défaire ces biais conscients et inconscients. Et Dieu seul sait que j'en ai connu quelques-uns.
Ah ouais, tout à fait.
J'en ai eu moi-même, mais j'ai été moi-même, j'ai souffert moi-même de ces biais-là. Donc, je les reconnais. Et voilà, donc c'est ça. Donc, ce que je me...
Donc, je voulais dire, est-ce que c'est accessible à tout le monde, c'est-à-dire qu'on soit en début d'un projet ou déjà en pleine expansion?
Tout à fait. C'est très simple de savoir. J'identifie parce que c'est ce que je fais maintenant, mais c'est très facile, c'est d'aller sur le média parce que c'est le média. Le média, c'est on diffuse du contenu qui ne nous appartient pas, mais il doit être en phase avec la mission du média, donc ça doit donner, outiller, propulser. Donc ça doit parler aux dirigeantes et aux dirigeants et aux entrepreneurs des PME. Donc on diffuse, mais on produit aussi. Donc on est producteur-diffuseur, mais on est aussi que diffuseur. Donc ça, c'est le média. Si quelqu'un est intéressé à savoir comment ça fonctionne, c'est facile. info@unkelmedia.com. Si on est intéressé par la conférencière, la coach ou la conseillère stratégique, c'est danielunkel.com. Donc, c'est très simple. Oui, c'est accessible. Et en tout cas, pour l'instant, tous ceux qui m'ont approché trouvent que j'ai une façon très particulière, et j'en suis ravie parce qu'il faut qu'elle soit particulière. Elle m'appartient.
Ah oui.
d'aborder les défis ou les solutions.
Ah oui, j'ai aucun doute. Vous avez reçu la médaille du Chevalier de l'Ordre de Mérite de France en 2017.
Oui.
Et à ce moment-là, la mairesse de Paris, l'honorable Anne Hidalgo, vous avait défini comme suit. L'unicité dans l'universalité. Ça a résonné quelque chose en vous?
Ah, énormément.
Oui.
J'ai trouvé, d'abord, j'ai été extrêmement touchée et émue par le fait que pour qu'elle puisse définir cela, il a fallu qu'elle prenne connaissance de mes livres.
Voilà.
Donc, ça m'a dit qu'elle a pris la peine de lire mes livres, de décortiquer la personne et de se rendre compte que, surtout dans mon dernier, qui est un essai qui dit « Ces différences qui nous rassemblent », elle m'a défini comme étant l'unicité dans l'universalité.
Ouais.
Donc, ce que ça voulait dire pour elle, comment je l'ai reçu, moi, c'est que je suis unique, mais que je l'ai compris. Que je l'ai accepté, que je l'ai mis en valeur, cette unicité-là, sans jamais vouloir ressembler à qui que ce soit d'autre. J'ai voulu être aimée, j'ai voulu être reconnue. C'est normal et c'est humain, mais je suis restée unique. Lorsqu'on m'a demandé, comme je vous disais tout à l'heure, de rentrer dans une case, j'ai choisi mon unicité. Et donc, elle me dit, vous êtes l'unicité dans l'universalité. Ça veut dire que j'ai accepté d'être unique, mais j'ai reconnu l'universalité de tous et de toutes.
Ouais.
Donc, je fais partie intégrante de cet univers qui nous définit tous et chacun, mais chacun d'entre nous devrait et doit aimer son unicité.
Oui.
C'est ça qui est important. C'est que quand on comprend à quel point on est unique, à quel point on est magique, à quel point on est différent,
oui.
Eh bien, c'est ce qui fait, justement, un monde mm-hmm. où ça veut dire quoi être différent
oui.
Mais ça veut dire, waouh, ça veut dire qu'il faut être différent. Parce que sinon, rien ne se créerait.
Exactement.
Rien ne serait magique. C'est la différence de nos façons d'être, de nos pensées, de nos actions, de nos genres, de nos cultures, qui fait que le monde est ce qu'il est. Et moi, je parle d'un monde meilleur.
Oui.
Ouais.
Et on devrait le transmettre dès l'apprentissage, très jeune.
Vous savez, j'ai dans mon deuxième livre, qui s'appelle « Quand c'est au cœur de mes valeurs
oui. »,
je parle beaucoup de l'éducation et mmh. de l'enseignement. Je les définis les deux différemment. L'éducation, c'est le rôle des parents.
Oui.
Je suis désolée, mais oui, c'est à la naissance même qu'on commence. On commence à éduquer par rapport à nos valeurs et aux valeurs humaines
oui.
À la maison, définitivement. Ce n'est pas le rôle de nos enseignants, de nos professeurs de le faire. Leur rôle, c'est de nous enseigner les matières, de nous enseigner la vie, de nous enseigner des choses, mais certainement pas de nous éduquer. Nos parents doivent nous éduquer quant à ce qui est bien et ce qui est mal. À ce qui est juste et ce qui est injuste, au regard que l'on doit porter sur les autres. Ça, c'est de l'éducation. Et ça, c'est la responsabilité des parents.
Mmh. Ah ouais. Wow! Alors, comment un parent qui vous dirait, parce qu'on sait, il n'y a pas de manuel pour être un bon parent.
Non.
Un parent qui vous dirait, mais Daniel... comment je fais ça?
Mm-hmm. Je crois que d'être parent, c'est, je vous dirais, puis c'est sincère, c'est la tâche la plus complexe,
ah oui.
la plus injuste, la plus ingrate, parce qu'il y a beaucoup d'ingratitude autour de cela, que d'être papa ou maman. On fait de notre mieux, Marjorie.
Oui.
On fait de notre mieux. Mais ce qui est le plus important, c'est de reconnaître d'abord en tant que parent nos valeurs. Elles sont quoi nos valeurs? Est-ce qu'on est un ramassis de tout ce qu'on nous a forcé d'accepter comme étant une vérité?
Oui.
Hein? Ou est-ce que nous avons nous-mêmes nos propres définitions mm-hmm. du respect de soi et du respect des autres? Et c'est ça qu'il faut inculquer à nos enfants. C'est juste ça.
Oui.
C'est de ne pas permettre de dépasser cette limite et le respect de l'institution, mm-hmm. le respect des droits, le respect, comme on dit, je me battrai jusqu'au bout pour défendre ton opinion,
mm-hmm.
mais je veux avoir la mienne aussi.
Mm-hmm.
Donc, le respect juste de soi et de l'autre, on pourrait commencer juste là.
Oui.
Et ensuite, eh ben, de se dire que je vais faire de mon mieux. Et oui, j'ai été une maman sévère. Je l'ai regretté souvent, mais je ne le regrette pas aujourd'hui.
Oui.
Parce que lorsque je regarde le résultat, je me dis que d'avoir été sévère, c'est d'avoir tout simplement instauré, comme on instaure dans une entreprise, comme on instaure dans une institution, mmh. il y a des droits, il y a des passations, il y a des choses qui doivent être acceptables mmh. et non acceptables.
Ouais.
Et donc pour moi, la maison, la famille, le foyer,
ouais.
il y a des balises. Il y a des règles
ouais.
qu'on ne doit absolument pas bafouer.
Ouais.
On ne fait pas n'importe quoi dans un foyer. On ne dit pas n'importe quoi. Non.
Ouais.
Et voilà.
Je voudrais, Daniel, parce que je sais que vous êtes aussi une femme amoureuse, une femme d'amour.
Oui.
Donc, un dernier mot peut-être pour les femmes, parce qu'il nous reste que quelques minutes, une minute. Alors, un dernier mot pour clore cette belle discussion que nous avons eue.
Tout simplement de s'aimer telles qu'elles sont.
Oui.
Et de reconnaître leur puissance et leur pouvoir, et surtout de ne jamais donner ce pouvoir à qui que ce soit d'autre, mais de l'utiliser à bon escient, de se faire confiance.
Merci, merci Daniel Henkel d'avoir accepté mon invitation. Ce tête-à-tête avec vous fut un pur délice. Alors, je vous rappelle que mon invitée, Daniel Henkel, est fondatrice et PDG des entreprises Henkel et de Henkel Media, également autrice de 3 best-sellers. Ceci met fin à notre émission. Merci à toute l'équipe Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Ici Marjorie Théodore qui vous dit à la prochaine.
Merci, au revoir.
Merci.